scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Labrasseur. Aujourd'hui, je vais vous proposer un épisode solo où on va discuter un peu de la difficulté de comprendre la culture japonaise et d'une thèse qui serait, on pourrait l'appeler l'incommensurabilité entre les cultures. L'incommensurabilité en épistémologie, c'est de dire que des disciplines, des paradigmes différents en science sont incapables de se comprendre. Chaque paradigme serait une bulle intellectuelle qui finalement serait incapable d'entrer en dialogue ou d'évaluer un autre paradigme que le sien. Donc par exemple, la psychologie cognitive qui serait un paradigme ne saurait rien dire de pertinent sur la psychanalyse qui serait un tout à fait autre paradigme. Mais ici, on ne va pas parler d'épistémologie, je parle de l'incommensurabilité entre les cultures, et c'est l'idée qu'on ne saurait pas comprendre, il serait impossible de comprendre une autre culture. Et l'idée de cet épisode m'est venue en regardant une vidéo de Michel Onfray. En fait, c'est un auditeur du podcast qui s'appelle... sa Twitter handle, c'est Martini, qui est un fidèle auditeur du podcast, qui m'a envoyé ce lien. C'est une séance de questions-réponses de Michel Onfray. Alors, je vais à un moment donné passer un extrait de cette conférence. Malheureusement, elle est en fait... Enfin, c'est pas une conférence, c'est comme je viens de dire, c'est une question-réponse. Donc, il répond à une question qui lui est posée sur le yin et le yang. Donc, c'est une réponse qu'il improvise. La réponse est assez longue. Hein, il se lance dans une de ces longues tirades dont il a le secret. Je pense qu'au total, ça fait une vingtaine de minutes. Si on écoute tout le segment où il parle du Japon... Ouais, je peux pas mettre l'intégralité de ce qu'il met en fait. Hein. Ce serait trop long dans l'épisode, donc je vais passer l'un ou l'autre extrait juste pour donner un goût de ce qu'il dit, je ne peux pas passer l'extrait complet. De toute façon, je mettrai le lien dans les notes du podcast pour ceux qui voudraient aller écouter son intervention complète. Bon, pour ceux qui découvriraient le balado, je rappelle que si le sujet m'intéresse, c'est parce que je suis professeur de japonais dans ma vraie vie. C'est-à-dire quand je suis pas en dehors de de mes activités sceptiques, je veux dire, je gagne pas ma vie en tant que sceptique, je suis professeur de japonais, ça c'est mon métier qui me permet de vivre. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et aussi, je me suis très intéressé par la philosophie japonaise, et donc ça m'intéresse à double pour ces deux aspects-là. Donc pour donner une idée, j'ai par exemple traduit récemment un article de philosophie japonaise pour le European Journal of Japanese Philosophy, numéro 1 là. Donc voilà, j'ai un peu d'expérience en termes de traduction du japonais philosophique. C'est pour ça d'ailleurs que Martini m'a envoyé le lien vers cette intervention de Michel Onfray. Alors, petite préambule, je veux dire, Michel Onfray, je ne suis pas le type de personne qui bâche Michel Onfray. Hein. Je l'aime plutôt bien, je l'aime plus que d'autres personnes, que d'autres intellectuels français à choisir, d'autres philosophes, je veux dire, par là. Hein. Par exemple, je préfère Michel Onfray à Luc Ferry ou à André Comte-Sponville ou BHL, évidemment. Je pense qu'on pourrait dire que... Bon, la critique que je dis généralement à son propos, je pense que c'est simplement ça, c'est que qui trop embrasse mal étreint, évidemment, il essaie de couvrir tellement de choses que... Je crois que c'est important de savoir quelles sont nos spécialités et de ne pas trop en s'en écarter. Enfin, je pense que oui, Michel Onfray, pour moi, il ne s'est jamais revendiqué comme tel, hein, mais d'une certaine façon, je crois qu'il fait partie un peu de la communauté sceptique francophone, même s'il a je le copte, puisqu'il ne s'est jamais identifié à la communauté sceptique, à ma connaissance, ou zététique. Mais il y a des aspects comme par exemple, bon, il a écrit le traité de la théologie, qui est clairement un livre de contre-apologétique, hein, donc de critique de la théologie chrétienne, qui est un des sujets qui m'intéresse. Bon, je trouve que son ouvrage de contre-apologétique n'est pas terrible, hein, mais entre autres pour des raisons, parce qu'il ne connaît pas l'apologétique américaine, donc il ne fait pas de la contre-apologétique très rigoureuse. Et puis alors, il y a aussi évidemment son ouvrage critique de Freud, qui est aussi à l'intersection avec les sujets qui intéressent les sceptiques. Et quelles que soient les critiques qu'on peut faire à Michel Onfray, il faut quand même lui reconnaître qu'il a changé d'avis sur la psychanalyse en cours de route. Ce qui est quand même... combien de fois est-ce qu'on voit un intellectuel qui... qui change d'opinion sur la psy sur un sujet comme ça de manière publique. C'est vrai que voilà, il était, dans ses premiers ouvrages que j'avais lus de lui, il était pro-psychanalyse, il parlait de psychanalyse comme beaucoup d'intellectuels français, jusqu'au moment où il a vraiment fait une conversion vers une attitude sceptique par rapport à la psychanalyse. Après, on peut voir c'est la validité de ses critiques envers la psychanalyse, mais il a quand même la pertinence d'avoir fait ses critiques. Donc rien qu'avec ça, la contre-apologétique, donc son traité de la théologie et son ouvrage critique de Freud, on voit que... Bon, si, bon, vu qu'il ne se dit pas sceptique, il faudrait peut-être pas dire qu'il est sceptique ou zététicien, mais en tout cas, il intersecte beaucoup avec nos centres d'intérêt, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Voilà, alors ici, dans son intervention, je dirais que d'un point de vue global, il fait beaucoup de remarques intéressantes, mais je crois qu'il exagère en fait sa position et sa position fleurbond un peu ce que j'appelle l'orientalisme. L'orientalisme, c'est un concept précis donc d'Edward Said. Donc avant l'orientalisme hein, au 19e, etc., c'était l'étude de l'Orient tout simplement. Et puis Edward Said a écrit un livre qui s'appelle l'Orientalisme. La construction de l'Occident par l'Orient, je pense un titre comme ça, il faudrait. J'ai pas noté le titre, mais. C'est un ouvrage classique hein, en études postcoloniales, c'est l'ouvrage qui a un peu fondé les études postcoloniales. Vous cherchez Edward Said, hein, Orientalisme. Bon, évidemment, chez Edward Said, l'usage qu'il en fait aussi est très spécifique. Il pense que les intellectuels occidentaux ont étudié l'Orient avec une de manière. Colonialiste en fait, hein, pour établir la supériorité de l'Occident sur l'Orient. Bon, pour les détails, allez lire carrément Edward Said lui-même. Mais ici, moi, je préfère, enfin, j'emploie le terme d'orientalisme de manière plus floue, plus vague. Et ce que je veux dire par là, c'est la tendance qu'on a à voir dans le Japon quelque chose de mystérieux, évidemment dans la Chine aussi, l'Inde, voir. Une sorte de choc civilisationnel entre l'Orient et l'Occident, et de voir dans. Bon, je parlais du Japon, mais ça vaut pour la Chine aussi, mais quelque chose de. Terra incognita, quelque chose de. D'un peu extra. Voilà, étonnamment. Magique. Enfin, c'est un peu la représentation qu'on a, ouais. Un peu. Si vous avez vu le dernier Doctor Strange, enfin, l'adaptation de Doctor Strange, ouais. C'est là qu'on va en Inde pour apprendre les arts mystiques. Enfin, on a cette imagerie de l'Orient. Voilà, comme un lieu étrange que l'occidental n'arrivera jamais, que les occidentaux n'arriveront jamais à comprendre, et c'est un peu ce que nous dit Michel Onfray. Voilà, je vais vous passer donc maintenant un court extrait. Encore une fois, c'est pas la séquence complète parce qu'elle est vraiment beaucoup trop longue, mais ça vous donne un peu un échantillon de ce qu'il nous raconte sur le sujet.
D'où la difficulté quand on passe aux catégories orientales, je songe au Japon ou à la Chine, de les appréhender avec notre propre vocabulaire, puisque effectivement ça ne marche pas. C'est-à-dire que François Julien fait tout ce travail en essayant de voir comment la Chine peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes. La plupart du temps, c'est comment la Chine peut nous apprendre des choses sur la Grèce. Mais je pense que on se trompe parce que de toute façon, on est prisonnier. On a été fabriqué comme ça, c'est-à-dire que notre langage, notre vision des choses, notre vision du monde a fabriqué un cerveau. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est pas bien, tout le monde est pareil, tout le monde est conformé de la même manière, on est tous des humains, etc., etc. Sauf que c'est pas vrai, et que si vous apprenez une langue, la langue vous structure d'une certaine manière, que la langue chinoise, la langue japonaise ne vous structure pas exactement de la même manière que les langues européennes, les kanji, les signes par exemple. Sont très difficiles à traduire quand vous traduisez de la poésie japonaise ou quand vous traduisez des textes japonais. Eh bien, il faut faire des approximations. Et les approximations, elles sont toujours faites de manière occidentale, pardon. C'est-à-dire que j'ai un ami français qui a appris le japonais, qui vit au Japon, et on traduit, c'est lui qui traduit, mais il m'envoie des haïkus sans les traduire, même en me donnant tout ce qui permettrait de les traduire. Et c'est d'une extrême richesse. Parce que ça part dans tous les sens. Alors que nous, quand on traduit un haïku, ça part pas dans tous les sens. Clac, 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 c'est trois traits comme ça, et puis on a quelque chose, alors qu'il me dit, voilà, ce signe-là, puis ce signe-là, puis ce signe-là. Ces trois signes-là, quand ils sont mis ensemble, ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut vouloir dire ça aussi. Puis ça peut vouloir dire ça aussi. Maintenant, quand on est dans ce signe-là et qu'on met à côté un autre signe, eh bien, ce signe-là peut encore aller au-delà des trois signes que signifiait ce signe s'il était séparé de ce propre signe. Donc vous voyez que le signe même en tant que tel a plusieurs significations, que ce signe même, il change de signification quand il est en relation avec le signe d'à côté, et qu'il y a une place pour l'indéterminé, pour l'imprécis et pour l'indécis. Et que, bah évidemment, si vous pratiquez la langue, vous saisissez, vous comprenez. Si vous ne la pratiquez pas, vous n'aurez qu'une approximation. Moi, il m'est arrivé de faire des conférences au Japon, et je suis bavard, donc on n'a pas toujours la chance d'avoir des traductions simultanées, c'est-à-dire en même temps qu'on parle. On parle, puis vous avez des casques, et puis il y a quelqu'un qui travaille, souvent trois personnes, parce que j'en tue beaucoup, et qu'il faut au moins trois personnes pour me traduire. Et puis vous parlez comme je parle, et puis les traductions sont faites. Et puis vous avez des traductions consécutives. Vous parlez, vous vous arrêtez, puis il y a quelqu'un qui traduit. Vous parlez, vous arrêtez, etc. Donc je parle, un peu comme je le fais habituellement quand je suis à l'étranger, puis à un moment donné je m'arrête, donc je parle comme ça. Et quand j'ai parlé comme ça, c'est traduit comme ça. Alors je me dis, j'ai pas dû être très clair, et ils doivent ajouter une sauce pour expliquer, quoi. En disant, quand je dis, je sais pas, Platon dit que, etc., il explique qui est Platon, il fait un petit cours en plus, quoi. Donc je recommence et ça continue. Et alors je me dis, j'ai essayé de faire plus court. Je fais plus court, c'est guère plus long, ou guère plus court non plus pour lui. Donc on passe tout son temps comme ça, et puis à la fin je dis, mais j'ai pas compris, mais je me suis mal exprimé. Il me dit, non, je vous expliquais comment on fait, comment on traduit pour pouvoir vous traduire vous, parce que c'est pas facile, c'est pas simple, ça paraît simple, mais il y a plein d'images, il y a plein de références, il y a parfois des clins d'œil, il y a parfois des choses comme ça, et on est obligé de traduire par agglutination. Et ces agglutinations, elles supposent des sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mobile et différent, et parfois contradictoire, et parfois on tranche pas. Donc, il faut accepter cette idée qu'il y a des langues qui nous réunissent, et qu'on peut passer facilement du français à l'espagnol, à l'italien, etc., que c'est plus difficile dans des traditions orientales, eh bien, il y a des catégories qui nous soient définitivement inaccessibles. Parce que si elles nous sont accessibles par des traductions, eh bien, elles sont occidentalisées. Et si ce sont des traductions françaises, pour le coup, elles sont francisées. Et pour le coup, bah évidemment, on projette nos catégories sur des choses qu'on n'arrivera pas à savoir. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de questionner quelqu'un qui aurait la binationalité, mais qui serait vraiment un binational, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait eu un père français, par exemple, une mère japonaise, ou l'inverse, et qui aurait appris les deux langues en même temps, qui aurait donc été structuré psychiquement et donc anatomiquement, cérébralement, d'un point de vue de l'encéphale, avec ces deux civilisations et ces deux cultures, et justement le faire réagir.
Voilà, donc Michel Onfray nous dit que la langue nous structure, hein, qu'on pense dans une langue. Avec ça, je suis assez d'accord. C'est vrai que si on pense en français, on pense pas comme en anglais ou en allemand, etc. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il participe un peu de cet orientalisme parce que, comme de par hasard, les langues enfin les pays qui vont l'intéresser sont la Chine, le Japon. Alors il le dit lui-même dans la conférence. Il y a des langues avec lesquelles on a des affinités et puis d'autres qui nous resteront éternellement inconnues comme le Japon. Moi, il y a un aspect avec lequel on est d'accord, c'est qu'évidemment la distance linguistique entre le français et l'anglais, ou entre le français et l'allemand, est beaucoup moins grande qu'entre le français et le japonais. Ça, c'est clair. Donc, évidemment, le japonais est beaucoup plus difficile à apprendre pour un francophone que l'anglais ou l'allemand. Encore plus que l'espagnol est particulièrement facile, par exemple. Bon, ça, c'est évidemment empiriquement exact. Hein, c'est juste une question de distance linguistique. Bon, le japonais fait partie des langues japoniques. Hein. Les langues japoniques, il y en a deux. Il y a le japonais et l'okinawaïen. Donc voilà. Bon, évidemment, là encore, c'est un point de vue très occidental, puisque un chinois aura beaucoup plus facile d'apprendre le japonais. Pas parce qu'il y a une très forte proximité linguistique entre le chinois et le japonais. Les deux langues ne se ressemblent pas grammaticalement, etc. Mais parce qu'ils partagent le même système idéographique, il y a plus ou moins 80, enfin à la louche, il y a 80% d'idéogrammes qui sont les mêmes entre les deux. Donc il aura beaucoup moins dur à apprendre tous les idéogrammes, puisqu'il les connaîtra déjà. Il doit juste voir comment ils sont utilisés dans la langue japonaise. Donc un chinois a forcément beaucoup plus facile à apprendre à lire le japonais qu'un français. Donc un intellectuel chinois aura beaucoup plus facilement accès à la culture japonaise qu'un français, par exemple. Bon, mais ça me paraît auto-évident, mais au-delà de la mystique de l'Asie, qui est un peu déployée là, de l'orientalisme comme ça, moi je veux dire, en philosophie, c'est clair que Si vous êtes étudiant en philosophie, de toute façon, on va vous demander d'apprendre la langue ou les langues des philosophes qui vous intéressent. Si vous êtes vous décidez de passer votre carrière à travailler sur Hegel, on va vous demander ou Kant, on va vous demander d'apprendre l'allemand. Si vous décidez d'apprendre, quel que soit le philosophe que si vous voulez travailler sur des philosophes américains, vous devrez apprendre l'anglais, etc. Et ça, c'est logique. Enfin, c'est cette idée, c'est que si vous voulez vraiment comprendre un philosophe, il faut le lire dans le texte, dans la langue. Ça n'a rien de spécifique à l'Asie. Et ça me paraît une remarque de bon sens. Hein. Une fois, j'étais à un colloque où il y avait une philosophe qui parlait de Kant. Et évidemment, dans les questions du public directement, on lui a demandé ce que vous parlez, ce que vous l'avez lu dans le texte, etc. Ce qui sont des questions légitimes, hein, c'est si on veut s'intéresser, si vous voulez travailler sur les philosophes de l'Antiquité grecque, il faut apprendre le grec. Et moi, quand j'ai fait mon mémoire en philosophie sur la philosophie japonaise, mon professeur m'a dit si tu veux faire un doctorat un jour, ce que j'ai pas fait, mais si vous voulez, tu veux en faire un jour sur la philosophie japonaise, parce que mon doctorat, c'est en psycho, hein, c'est pas en philo. Mais si tu voulais faire un jour un doctorat en philosophie japonaise, tu dois apprendre le japonais. Bon, évidemment, il y a une autre raison, c'est qu'il y a très peu de textes philosophes japonais traduits en français, donc forcément, il faut les traduire. Mais voilà, c'est de bonne guerre, je dirais. Mais pourquoi pointer comme quelque chose de spécifique à l'Asie? Je pense que c'est vrai. Pour tous les philosophes, quel que soit le philosophe, c'est important d'apprendre la langue. On a l'impression que, voilà, il nous dit que si on n'est pas un bilingue parfait, donc si on n'a pas grandi dans les deux cultures, on ne comprendra jamais vraiment le Japon. Pour moi, quand on apprend une langue, hein, bon, bien sûr, apprendre le japonais sera beaucoup plus difficile qu'apprendre l'espagnol pour un français, on est d'accord. Mais si on apprend le japonais, c'est apprendre la langue. Donc, je pense qu'il a dû. Lui, il parle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il parle comme autre langue que le français, mais il doit se projeter dans l'esprit de quelqu'un qui parle couramment le japonais. Une personne qui aurait appris couramment le japonais maîtriserait quand même assez bien la culture japonaise, je pense. Enfin, lui, il présume qu'une personne qui saurait parler couramment le japonais. On va même distinguer une personne qui serait lire couramment le japonais, une personne qui serait capable de lire ou de traduire de la philosophie japonaise, même à ce niveau-là, n'arriverait pas réellement à comprendre la culture japonaise. J'ai un peu du mal avec ça. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui devrait être scientifiquement prouvé. Évidemment, ça dépend aussi de ce qu'on veut dire par là. Évidemment, je veux dire, si on a un francophone qui apprend à lire le japonais couramment, il sera jamais japonais, quoi. Mais ça, c'est un peu une attitude essentialiste qu'on trouve dans les courants d'extrême droite japonais, hein. C'est la japonité. Voilà, si vous êtes pas les gènes japonais, c'est que vous serez jamais japonais, vous comprendrez jamais le Japon. Mais évidemment, c'est des idées qu'on trouve au Japon, mais comme je viens un peu de le dire, c'est des idées d'extrême droite, hein. C'est un peu un essentialisme ethnique, hein. Il parle des métis comme si c'était. Bon, en japonais, on appelle ça half, ou hein, des half, en anglais, des moitiés. Hein. Enfin, en anglais, ils disent pas half, je pense, mais en tout cas, en japonais, c'est du japlish. De l'anglais revu par les japonais, half, ou à moitié. Hein. Je pense là aussi, il n'a pas réellement bien réfléchi à la question, parce qu'il y a deux types de half, hein. Il y a les half qui ont grandi au Japon. À ce moment-là, ils sont japonais, mais maîtrise probablement pas bien l'autre culture. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il la maîtrise bien. C'est probablement le meilleur cas. Hein. Voilà, ce sera si quelqu'un grandit au Japon et que son père est américain, il parlera certainement très bien anglais, il sera capable de traduire de la philosophie japonaise en anglais. Mais dans l'autre cas, un métis qui grandit en Europe, j'en connais beaucoup, souvent ils savent pas lire. Hein. Parce qu'apprendre les 2000 idéogrammes du Joyo Kanji, hein, donc les kanji standards japonais, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et je connais beaucoup de gens, beaucoup de hafu qui lisent beaucoup moins bien que moi, par exemple, parce qu'ils ont jamais, ils savent parler, en tout cas en ce qu'on appelle l'informel, entre copains, ils ont un très bon niveau à l'oral, mais ils savent, je suis toujours étonné, mais ils savent pas vraiment lire, ils savent pas lire les idéogrammes. Donc ils vont avoir du mal à traduire ou à lire de la philosophie japonaise. Voilà, être métis ne fait pas tout quand même. Hein. Ça dépend aussi le lieu où on grandit. Si on grandit au Japon, on est japonais, sauf si on a une perspective essentialiste, génétique et raciste comme ça, qui dit voilà, il faut avoir le bon code génétique et Voilà. Enfin, c'est un peu de dire, voilà, si un enfant grandit au Japon et qu'il est métisse, donc on va dire sa mère est d'origine japonaise et son père est américain, mettons, et il grandit au Japon, il fait toute sa scolarité au Japon, mais il a la nationalité japonaise, pour moi, il est japonais, quoi. Voilà. Bref, et donc, il y a cet aspect-là aussi. Mais je pense que l'idée d'une certaine. Qu'il y ait des idées japonaises qui nous seront éternellement incompréhensibles. Bah, le problème de l'incommensurabilité des cultures, c'est vraiment les choses sont. Les cultures sont des blocs comme ça, surtout des blocs civilisationnels apparemment, hein, parce que apparemment on peut comprendre les cultures qui nous sont proches, comme je sais pas, un francophone peut comprendre la culture germanique pour Michel Onfray, mais un francophone ne pourrait jamais comprendre la culture asiatique, sauf s'il est métis, quoi. Bah, c'est ça, grosso modo, ce qu'il nous dit. Hein. Mais le problème de cette approche-là, c'est qu'en fait, ça rend le projet anthropologique complètement impossible. L'anthropologie, c'est typiquement d'aller apprendre la culture de l'autre via l'observation participante. Et ça rend même le travail philosophique impossible, puisque ça veut dire que le travail du philosophe qui consiste à traduire les notions ou à dialoguer avec d'autres civilisations, si apparemment, est voué à l'échec, puisqu'il y aura toujours des choses qui nous seront incompréhensibles. Bon, évidemment, il nous dit, c'est parce qu'il y a des mots qui, quand ils sont traduits, sont adaptés pour la langue. Mais ça évidemment, hein, c'est pour ça qu'il faut parler la langue. Parce que, évidemment, un mot qui est inséré dans son milieu linguistique n'a pas la même connotation qu'un mot qui n'est pas ins qui est inséré dans le français. Ok. Mais c'est vraiment l'idée que j'ai, hein, c'est que ses arguments sont bons, mais j'ai l'impression qu'il va trop loin dans ce qu'il dit. Comme si, il exagère, quoi, la portée de ce que, des différences entre les cultures. Il y a tout un travail qui est fait en philosophie d'appropriation du débat des concepts philosophiques japonais, entre autres l'école de Kyoto, qui est la principale école japonaise de philosophie créée par Nishida Kitaro. Son but, ça a été de formuler les intuitions philosophiques japonaises dans un langage occidental, donc ça c'était au début du XXe siècle, donc c'était surtout des idées en provenance du zen. Hein. Mais c'était des gens qui étaient formés aussi bien à la pensée bouddhiste qu'à la pensée occidentale et donc qui pouvaient trouver des manières de formuler. Ensuite, après ça, il y a des gens qui vont commenter, mais donc qui vont traduire. Mais généralement, d'ailleurs, la plupart des gens qui vont traduire, on trouve dans les milieux de philosophie japonaise énormément de métis, évidemment, parce qu'ils ont un énorme avantage, puisqu'ils connaissent déjà la langue, ils n'ont pas besoin d'apprendre la deuxième langue. Et donc, il y a tout un travail d'absorption, de réflexion, de dialogue. Mettons qu'il y ait des notions qui soient totalement intraduisibles, c'est ce que nous dit mon frère, ou quand on les traduit, on perd des choses. Ça, bon, encore une fois, hein, je suis d'accord, mais je pense qu'il va trop loin dans ce qu'il dit. Évidemment, pour un philosophe, voilà, il faut qu'il apprenne le japonais s'il veut s'intéresser à la philosophie japonaise, puisque le mot dans son milieu naturel, donc linguistique naturel, aura un sens, pour mieux comprendre le sens du mot, quoi. Si quelqu'un qui fait de la philosophie japonaise sans parler japonais, évidemment, il aura beaucoup plus de mal à comprendre les notions. Hein. Là, en gros, il pourra finalement faire que de la vulgarisation. Mais je pense pas qu'il faille nécessairement être un hafu ou un métis pour faire de la philosophie japonaise. Par exemple, il y a des notions qui vont être explicitées et débattues dans la littérature. Encore récemment, j'ai acheté là aux éditions Philippe Piquet un livre qui s'appelle Ma et Aïda, des possibilités de la culture de la pensée et de la culture japonaise. Donc Ma et Aïda, il y a aussi Mai, hein, c'est des mots, c'est des concepts importants dans la culture japonaise. Bon, Augustin Berg propose comme traduction l'entre-lien. Donc voilà, on peut même créer des néologismes pour rendre compte de ces concepts. Je ne vais pas rentrer dans une discussion de ces concepts, mais voilà, c'est un bouquin qui fait, je suis en train de regarder, 260 pages sur la bibliographie, on va dire. Et en fait, c'est 260 pages qui expliquent la spécificité de ce concept, comment les Japonais l'utilisent. Donc, c'est typiquement le travail philosophique que de faire ça, quoi. De dire, ben voilà, on va réfléchir à ce que veut dire ce concept-là dans la culture ou dans la pensée japonaise. Et donc, si on dit qu'il y a des notions qui nous seront éternellement incompréhensibles ou inaccessibles, si on n'est pas métis ou si on n'est pas natif japonais, en gros, ce travail philosophique, il sert à rien, puisque Michel Onfray semble dire qu'on s'illusionne, quoi. Si on croit avoir compris, on n'a pas compris en réalité. Et là vraiment, j'ai du mal, hein. Je pense que, encore une fois, Il y a des Japonais qui parlent anglais, qui écrivent des textes qui expliquent la notion. Il y a des métis qui parlent les deux langues. Il y a des érudits qui sont, par exemple, francophones, mais qui parlent couramment le japonais. Tous ces gens-là dialoguent ensemble, écrivent et commentent ces concepts. Je pense qu'à la fin, on doit quand même avoir une bonne notion de ce que veulent dire ces concepts dans la langue japonaise. Venir dire, ces gens-là s'illusionnent, ils savent pas ce qu'ils racontent. Ça fleure bon l'anti-intellectualisme, mais j'ai un peu du... En tout cas, il faudrait me le prouver, quoi. Et alors, la preuve qu'il amène est vraiment complètement bizarre, hein. L'idée, ça serait que les Japonais ne disent pas la vérité, quoi, ou les Chinois ne nous disent pas la vérité. Ils nous cacheraient des choses. Oui, donc ça, c'est tellement gros que je vais vous passer l'extrait carrément. Voilà, je vous le passe.
C'est justement rentrer, tâcher de rentrer dans le divers de l'autre en sachant qu'il restera divers et qu'il faut qu'il reste divers. Et cette diversité, je pense que et les Chinois et les Japonais en sont extrêmement conscients et ne nous disent pas tout. Et quand on veut comprendre la Chine, on a tout à fait tort de croire que quand quelqu'un aura fait Langzhou et parlera chinois, il saura ce qu'est la Chine et comment elle fonctionne. Tous les gens qui font des conférences pour expliquer comment il faut pénétrer le marché chinois sont des gens qui n'ont pas compris que c'est pas comme ça que ça se passait et que ça ne s'est pas appelé l'empire du milieu par hasard. L'empire du milieu, c'est le milieu, c'est le milieu du monde, c'est le centre du monde.
Oui, là, c'est l'argument avec lequel j'ai le plus de mal, parce que je pense que ça doit vraiment être prouvé, quoi. Je veux dire, c'est facile de dire que les Japonais nous cachent des choses, hein, donc il y aurait que ce travail de philosophique ou le travail anthropologique serait en fait caché par les Japonais, en fait, seraient motivés à nous cacher la vérité concernant leur propre. C'est vraiment un peu une mode de pensée conspirationniste. Ça pourrait être vrai, mais en tout cas, je demande qu'on le prouve à ce moment-là. Moi, je pense que les intellectuels japonais, hein, donc les Japonais natifs qui parlent anglais ou notre langue, les hafu qui travaillent, les métis qui travaillent soit en philosophie ou en anthropologie, les érudits qui sont francophones mais qui sont bilingues, qui ont appris le japonais à un niveau suffisant, tous ces gens-là, je vois pas pourquoi ils seraient dans une, il y aurait une grande conspiration pour nous cacher la vérité à propos du cœur de la philosophie japonaise ou de la pensée japonaise. Je pense qu'en réalité, c'est l'inverse, hein, pour être totalement honnête. Je pense qu'en réalité, il y a des gens qui sont motivés, il y a des Japonais qui connaissent un peu le sentiment orientaliste, hein. Oh, le Japon, on n'y comprend rien, c'est mystérieux, c'est étrange et bizarre. Bon, je sais bien que les journalistes, ils font, parce que ça fait vendre, hein, ce genre d'article. Mais les Japonais, ils ont aussi compris qu'on percevait leur culture comme ça, et donc ça peut arriver que les Japonais jouent là-dessus, sur la mystique japonaise, et les Chinois aussi, hein, je parle du Japon, ce que je connais mieux, mais, en faisant, ah, mais vous n'arriverez jamais vraiment à comprendre, hein, c'est... Notre mode de pensée est tellement étrange et bizarre. Mais en plus, oui, y a quand même des courants d'extrême droite, encore une fois, qui écrivent des livres sur la japonité. Le Japon serait totalement étrange et différent du reste du monde. Ce serait une culture totalement spécifique. Mais bon, c'est des idées, encore une fois, très à droite, hein. Donc, c'est pas nécessairement à prendre pour argent comptant. Si y a un Japonais qui me dit, oh, mais. Qui joue sur ça en disant on ne peut pas comprendre la culture japonaise. Je suis pas sûr qu'ils nous disent là la vérité. Je pense que là il nous dit peut-être ce qu'on a envie d'entendre en fait, ou ce que certaines personnes ont envie d'entendre. Il entretient la mystique orientale, le grand maître zen, l'ermite sur sa montagne, un tortue génial et le kamehameha. Voilà. Et je pense aussi qu'au-delà de cet orientalisme, c'est cette mystique du Japon qu'on retrouve beaucoup dans les arts martiaux aussi, hein. Si un Japonais l'a dit, c'est que c'est vrai, ou si un Chinois l'a dit, c'est que c'est vrai. Enfin, ce fantasme de l'Orient, bon, ça existe encore, parce que c'est quelque chose qui est très prégnant dans la culture, hein, dans les médias, etc. Je dis, un Doctor Strange, il y a Iron Fist qui va arriver bientôt sur Netflix. Ok, c'est présent, mais parfois, je me dis, bon, il y a aussi Michel Onfray, il a aussi son âge, hein. Il se rend pas compte que toute la jeunesse de France, elle a grandi en regardant des mangas, des animés, des dramas. Tous mes élèves, là, mes tonnes d'élèves que j'ai à l'école, toute cette jeunesse-là, elle a grandi en absorbant de la culture japonaise à tire-larigot. Et quand on passe sa jeunesse à lire des mangas, regarder des animés, des dramas, écouter de la J-pop et à aller à la Japan Expo tout le temps, si ces gens-là se disent, souvent ils se disent, je vais apprendre le japonais, si ces gens-là apprennent le japonais et puis qu'ils se mettent à lire de la littérature un peu plus sérieuse, hein, bon, ça sera pas, bien entendu, pas tous, mais enfin, certains vont le faire, hein. Je pense que le nombre de locuteurs de japonais en France est certainement, bon, je n'ai pas de chiffres, hein, mais à mon avis, il est certainement en augmentation. Bah, ces gens-là, forcément, ouais, là, la culture japonaise leur est beaucoup moins étrangère que la génération de Michel Onfray. Voilà, quoi. Si on grandit en étant exposé à tout ça sans arrêt, on est un peu comme dans le cas de la population plus mainstream qui mangent de la série TV américaine au petit déjeuner. Je pense que quelqu'un qui veut rentrer dans la culture américaine, bon, je dis pas que si on regarde juste les séries TV américaines, on comprend la culture américaine, mais on est quand même beaucoup plus exposé. Donc, si on veut rentrer, faire un travail anthropologique, on s'est facilité par toute cette exposition qu'on a eue. En fait, la jeune génération actuelle, c'est la même chose, mais pour l'Asie, hein, donc surtout pour le Japon. Bon, il y a de l'intérêt aussi pour la Corée maintenant. Donc voilà, il y a aussi, je pense, quelque chose de générationnel, hein. Encore une fois, hein, si on prend des gens qui grandissent comme ça, la jeunesse de France d'aujourd'hui qui grandit avec des animés, des mangas, qui a joué, je sais pas, à la Famicom et à tous les jeux vidéo, à Yo-Kai Watch et Pokémon. Et si quand ces jeux-là se disent, oh, je vais sérieusement apprendre le Japon, aller faire la japonologie à l'université et tout, après me dire, ils sont incapables de comprendre réellement la pensée, enfin la culture japonaise. Je dirais, ça reste à prouver au-delà de la mystique orientaliste, quoi. Puis évidemment, on revient dans les bons vieux, peut-être choses basiques, mais les natifs ne comprennent pas forcément leur culture. Hein. Moi qui lis beaucoup de Asian Studies, hein, études de l'Asie, ça m'arrive souvent de parler avec mes amis japonais, de leur dire, ah, j'ai lu tel travail de sociologue, il dit ça sur la culture japonaise. Ils en sont les premiers surpris, hein, évidemment. C'est parce qu'on est natif qu'on comprend la culture dans laquelle on est. Et parfois, être un ex extérieur, hein, en travail anthropologique, est un avantage pour comprendre la culture. Parce que quand on est à l'intérieur d'une culture, on peut avoir une cécité par rapport à certains aspects de celle-ci. Donc voilà, on n'arrivera jamais à comprendre la culture japonaise. Ça me paraît un peu simpliste, hein. Et encore une fois, hein, ça met en s'il y a vraiment une sorte de bulle culturelle, enfin surtout civilisationnelle pour Michel Onfray apparemment. Mais si on imagine ce genre d'incompréhension extrême, ça met à mal le travail anthropologique, mais philosophique aussi. Parce qu'on peut parler d'Aristote et de Platon. Hein. Ils vivaient dans la Grèce antique, c'est une culture tout à fait spécifique. Il n'y a plus de natifs de la culture, il n'y a plus de métis non plus, il n'y a plus que des gens qui apprennent le grec ancien comme langue morte. Donc ça veut dire qu'ils, d'après la propre remarque de Michel Onfray, ils ne seraient jamais capables de vraiment comprendre certaines notions utilisées par Platon ou Aristote. Je pense que ça paraît plus absurde si on dit ça, parce qu'il y a une littérature immense sur ce sujet-là, avec des gens qui commentent Platon et Aristote depuis. Voilà, enfin, l'expression en philosophie, c'est que toute la philosophie, c'est une note de bas de page de Platon. Et on se rend bien compte que tout ce travail d'analyse des auteurs anciens, bah, nous sert à comprendre ce qu'ils voulaient vraiment dire. En fait, ce travail, il est juste à faire aussi pour le Japon. Et le vrai problème de fond, qui n'est pas évoqué par Michel Onfray, c'est celui-là, c'est qu'évidemment, le travail de dialogue avec l'Asie reste énormément à faire. Entre autres parce que, à cause justement de l'européanocentrisme, on a pensé que la philosophie, elle était purement occidentale, hein. Grèce, Rome, et puis évidemment, enfin, vous connaissez la généalogie qu'on a appris à l'école, hein, Descartes, Montaigne, puis voilà, Kant, Hegel, et puis les philosophes contemporains. Enfin, quels sont les philosophes asiatiques qu'on voit à l'école en Europe? On nous fait croire que c'était quelque chose que Hegel avait dit d'ailleurs dans son. Quand il parle de l'histoire, en gros, il n'y a pas de pensée en Afrique, en Asie, il y a juste un soubresaut. Alors qu'en fait, il y a des tas d'intellectuels intéressants en Asie, mais qui n'ont pas encore vraiment été travaillés au corps, justement à cause de ce racisme un peu qu'on a vis-à-vis de la pensée asiatique. Alors c'est en train de changer, mais le dialogue avec le Japon, avec la Chine, et même avec l'Inde, etc., il reste encore énormément à faire. La plupart des philosophes japonais ne sont pas traduits, ils ne sont pas enseignés. Enfin, voilà quoi. C'est une raison beaucoup plus simple que d'imaginer un fantasme de la culture japonaise nous sera éternellement incompréhensible.
La Vierge Marie est-elle apparue sur un toast?
Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales?
Le château de Hampton Court est-il hanté?
Peut-on anticiper des situations érotiques par la prémonition?
Si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apporte la science, de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas.
C'était votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.
It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Mmh.
empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow, or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never goes stale, so you gotta just keep on flowing, keep on. Just keep on flowing. You have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap, become one with the. You better train every part of your body. I mean, you gotta put your whole hip into it. Snap, snap, you better train, become one with the. Never go stale, so you gotta just keep on flowing, keep on flowing. So you gotta just keep on, just keep on. Under the sky, under the heaven, there is but one family. Do not believe in styles. Styles separate man. It's a process of continuing growth. Process of continuing. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Water can flow, or it can crash. Empty your mind, be formless,